Alors aujourd'hui, on va voir les noces de Cana. En fait, je pensais faire tous les textes sur ce que j'appelle les nuits de Marie, au sens les angoisses de Marie, quand Jésus va au temple, quand Siméon annonce le glaive. Mais du coup, je ferai ça la prochaine fois. Voilà. Pourquoi les noces de Cana? Parce que dimanche prochain, l'évangile de dimanche. Ce sont les noces de Cana. Du coup, comme ça vous prépare à dimanche. Et puis moi, ça me fait une seule. Enfin, voilà, ça me prépare pour mon homélie. D'ailleurs, la prochaine fois, c'est Marie-Yvonne, je crois. Ouais, c'est ça. Sur le message de Lourdes, puisque nous serons en février. Voilà. Alors, je vais lire d'abord le texte. Je ne vous l'ai pas mis. C'est vrai que j'aurais pu vous le mettre. Je n'ai pas pensé ça. Donc c'est au chapitre 2 de Saint Jean. Alors le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Or, il n'y avait pas de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit au servant, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, puisez maintenant et portez-en au maître du repas. Ils lui en portèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin, et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau, le maître du repas appelle le marié et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut le commencement des signes de Jésus. Il accomplit à Cana de Galilée et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après quoi il descendit à Capharnaüm, lui ainsi que sa mère et ses frères et ses disciples. Ils n'y demeurèrent que peu de jours. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Alors, ce texte présente beaucoup de curiosités. Je vous ai mis mon petit plan. Donc, je fais déjà l'introduction. Hein. Le mariage, une réalité fragile, je le ferai en conclusion. Donc, petit à, les incohérences de l'événement. En fait, c'est un texte sur un mariage, mais on ne parle pas des mariés. Ce qui est quand même assez étonnant. On ne parle pas des mariés, on ne dit rien de l'épouse. Il n'y a pas un mot, hein, dans les mariages qu'on veut voir, c'est toujours la robe de l'épouse et tout ça. Rien du tout. En plus, quand on s'adresse au marié, on fait une erreur. Parce qu'on lui dit, t'as gardé le bon vin jusqu'à maintenant, il y est pour rien, il n'est pas au courant des choses. Bon. Pourtant, le mot noce revient à 3 reprises. Bon, il y a des noces, il y a des noces. En fait, on parle que des invités et des serviteurs. Des invités qui sont Marie, Jésus et des serviteurs. Enfin, vous imaginez un photographe. Vous l'invitez pour prendre des photos. Il fait les photos des invités, des serviteurs. Il ne prend pas les mariés en photo. Ben, il est viré. Voilà. Bon. Et en plus, c'est un miracle un peu scandaleux parce que c'est le premier miracle de Jésus et c'est un miracle sur, pour du vin. Ben, je veux dire, le sauveur du monde, est-ce qu'il n'a pas mieux à faire que de de donner du vin à des gens qui sont déjà un petit peu sous, quoi. Parce que c'est pas au début du repas, c'est à la fin. Bon. Alors en même temps, premier miracle de Jésus, Jésus change l'eau en vin. Et vous savez que le dernier miracle, c'est Jésus qui change le vin en sang. Donc il va falloir qu'on creuse un petit peu en quoi ces incohérences sont peut-être un signe. D'ailleurs, on parle de signe dans l'évangile de Jean. Hein, tel fut le premier, le commencement des signes. Un signe, ça veut dire que ça signifie quelque chose. Voilà, ça signifie une signification. Alors, normalement, le mariage au temps de Jésus, comment ça se passe? D'abord, c'est des mariages qui durent plusieurs jours. Et puis, ça se vit dans le lieu de l'épouse. D'où, quand vous pensez aux vierges sages, les vierges folles, hein, cet épisode, cette parabole, eh bien, les vierges attendent la venue de l'époux. Hein, ça vous rappelle quelque chose, hein? On attend la venue de l'époux. Bon. Et traditionnellement, le jeune époux offre le vin du festin. Comme ça que ça se passe. Comme on va dire chez nous, la mariée, elle apporte le bouquet. Le jeune époux offre le vin. Bon. Alors, l'époux qui offre le vin, je comprends que c'est pas très compliqué. Celui qui offre le vin dans ce mariage, en fait, c'est Jésus. C'est lui. Donc, est-ce que ça serait pas lui qui serait l'époux? Hein? C'est pour ça qu'on ne nous parle pas de l'époux. Il faut savoir que l'époux, dans l'Ancien Testament, on en parle déjà de l'époux. Hein? Ton époux, c'est ton créateur, dit le livre d'Isaïe. J'ai plus la référence, mais c'est dans les textes de la vigile pascale. Ça va être Isaïe 54, je crois. Bon. Ton époux, c'est ton créateur. Livre d'Osée. Hein. « Ô mon épouse infidèle, je vais te conduire au désert. Je parlerai à ton cœur. » Donc ce thème de l'époux, il est tout au long de la Bible. Dieu se présente comme l'époux. Ah oui, mais alors si Dieu se présente comme l'époux, ça veut dire que Jésus se présente comme Dieu. Et c'est dans l'évangile de Jean une affirmation de la divinité du Christ. Puisque c'est lui qui donne le vin, c'est lui qui a la place de l'époux. Hein? Il n'est pas simplement le Messie, il est Dieu. Alors, je vais maintenant faire une lecture linéaire du texte, et puis au fur et à mesure, en 8 pauses, je vais expliquer le texte. Alors, les chiffres de la semaine, un renvoi au Sinaï, c'est mon premièrement. Je vous ai mis un petit texte que j'ai trouvé chez Origène. Le premier jour ont lieu les témoignages. Alors, c'est le texte numéro 1. Donc, il faut savoir que vous avez dans... Tout le monde a le texte? Vous l'avez pris, ça va? Vous avez dans l'évangile de Jean une semaine avec des jours. Enfin, voilà. Et on dit premier jour, deuxième jour. Donc, ça, vous l'avez. Et donc, je vous ai mis cette semaine. À chaque fois, j'ai rajouté les chapitres et les versets. Le premier jour ont lieu les témoignages, témoignages de Jean le Baptiste. Bon. Le second, Jésus va vers Jean. Le troisième, qui se tient là en compagnie de deux disciples. Ah oui, qui se tient là en compagnie de deux disciples aperçoit Jésus qui passe en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Il exhorte les assistants à suivre le Fils de Dieu. Tout ça, il faudrait reprendre le texte de Jean pour bien regarder à chaque fois à quel épisode ça fait référence. Le quatrième, sur le point de partir pour la Galilée, celui qui est parti à la recherche de ce qui était perdu, trouve Philippe et lui dit « Suis-moi ». Le troisième jour après, le quatrième, c'est-à-dire le sixième, en reprenant notre énumération dès le début, ont lieu à Cana, en Galilée. Ont lieu des noces à Cana, en Galilée. Ouais, on a bien un petit. Ouais. Bon. Voilà, alors, c'est assez curieux parce que Origène, vous voyez, il met un. En fait, moi je pensais qu'on arrivait au septième. Bon, apparemment, il arrive au sixième. Bon. Alors, il y en a. Enfin voilà. Bon, donc, sixième jour, bah, c'est intéressant, sixième. Hein, si je suis Origène, donc je ne sais pas trop comment il calcule, parce que, en fait, le quatrième, c'est déjà. Hein, bon. Hein, pardon ?
Ouais.
Oui, mais le troisième après le quatrième, ça fait six, ça fait sept, non ? Oui. Bon, mais chez Origène, ça fait six. Parce que le quatrième, ça doit être le premier du troisième, enfin du troisième après le quatrième, vous voyez ? Bon. 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 Alors, donc, si on dit six, alors six, ça peut être intéressant parce que c'est le moment où l'homme et la femme sont créés dans les sept jours. Hein ? Sixième jour. Donc on aurait peut-être une recréation de l'homme et de la femme. Bon, là si on fait 6, si on fait 7, 7 du coup ça nous fait tomber sur le Shabbat. Ben, d'accord ? Bon. Alors le chiffre 7 est intéressant parce que le Shabbat, c'est quoi ? C'est Dieu qui se repose, qui prend du recul par rapport à ses créations. Et on a l'impression que Jésus, du coup, prend la relève. Hein. Le moment du Shabbat, c'est aussi le moment où l'homme est appelé à continuer la création. Bon. Comme si Jésus achevait ce que le Père a fait. Bon. Les commentateurs insistent surtout sur le chiffre 3. Hein. Pas tellement 6, pas tellement 7, mais 3. Hein. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. C'est surtout le chiffre 3 qui est important. Parce que dans la Bible, eh bien, au troisième jour, il y a quelque chose qui se passe. Très souvent. Hein. En Genèse 32, Jacob affronte l'ange le troisième jour. En Genèse 22, avec Abraham, qui lève les yeux le troisième jour et voit l'endroit de loin. Le troisième jour, dit le Targoum, donc c'est un commentaire juif de la parole, Abraham éleva les yeux et vit l'endroit. Et le Targoum précise, il vit une nuée de gloire fumant sur la montagne et il l'a reconnue. Il reconnaît cette nuée comme le signe de Dieu. Hein ? Et vous voyez, dans l'évangile de Jean, on nous dit « Il manifesta sa gloire ». Et qu'est-ce que nous dit le Targoum sur Abraham qui voit la nuée sur la montagne ? On nous dit « Une nuée de gloire fumant sur la montagne hein, ». Donc le thème de la gloire à chaque fois dans les deux textes. Jésus crucifié ressuscite le troisième jour. Vous avez aussi le livre d'Osée. Je vous donne les références, chapitre 6, verset 2. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a frappé, il pansera nos plaies. Après deux jours, il nous fera revivre. Le troisième jour, il nous relèvera. Et nous vivrons en sa présence. Voilà, avec Jonas, vous avez une histoire de trois jours aussi. Bon, le livre d'Esther aussi, chapitre 5, verset 1. Bon, alors, ce qui est surtout intéressant, c'est l'Exode, au chapitre 19, versets 9 à 16. C'est là-dessus que je vais m'arrêter à propos de ce troisième jour. Et je vous ai mis le texte, donc texte numéro 2. Le Seigneur Dieu dit à Moïse, « Je vais venir à toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi et croie en toi pour toujours. » Et Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple. Le Seigneur dit à Moïse, « Va trouver le peuple et fais-le se sanctifier aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements et se tiennent prêts pour après-demain. Car après-demain, le Seigneur descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne du Sinaï. Puis délimite le pourtour de la montagne et dit, gardez-vous de gravir la montagne et même d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera mis à mort. Personne ne portera la main sur lui. Il sera lapidé ou percé de flèches. Homme ou bête, il ne vivra pas. Bon, quand la corne de bélier mugira, eux graviront la montagne. Moïse descendit de la montagne et vint trouver le peuple, qu'il fit se sanctifier et ils lavèrent leurs vêtements. Puis il dit au peuple, tenez-vous prêts pour après-demain, ne vous approchez pas de la femme. Or, le surlendemain, donc le texte hébreu dit le troisième jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée. Donc, ce thème du troisième jour, on est dans quel contexte? C'est le don de la loi. Vous savez qu'il y a eu d'abord la libération du peuple d'Égypte. Et pour rester libre, il nous faut recevoir une loi. Et comment Dieu donne sa loi? Il la donne sur une montagne et il va la donner, eh bien, le troisième jour. Alors, ce don de la loi correspond à une fête qui est la fête de la Pentecôte. Bon, c'est important, pourquoi? Parce que tout ce contexte de l'Exode au chapitre 19, eh bien, en fait, les mots, le vocabulaire, on va le retrouver dans les noces de Cana. Vous allez voir au fur et à mesure. Peuple sort d'Égypte et 50 jours après, on fête la fête de Shavuot, qui est la fête de la loi. Donc, le peuple hébreu, enfin, on est là, on prend la loi, on embrasse, il y a vraiment une fête autour de la parole de Dieu. Nous, notre Pentecôte, c'est quoi? 50 jours après Pâques, on reçoit le don de l'Esprit. Le don de l'Esprit, c'est quoi? C'est la loi qui est intériorisée. Je ne sais pas si... Voilà. Le don de l'esprit, la Pentecôte, c'est ça. C'est, comme dit l'Épître aux Romains, la loi de l'esprit qui donne la vie. Très curieux comme formule, la loi de l'esprit. Ouais. À la Pentecôte, je reçois l'Esprit Saint qui fait que suivre le Christ, c'est pas simplement répondre à des commandements, c'est se laisser porter par une présence qui m'habite, et faire l'œuvre de Dieu. Et être capable de faire ce que Dieu me demande dans sa loi. Avant, c'est extérieur, et après, c'est personnel, c'est intérieur, il y a des flammes sur chacun. Bon. Et du coup, il va falloir qu'on soit attentif à est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'une loi nouvelle, d'une nouveauté, de même qu'à la Pentecôte, le troisième jour, voilà, on rentre dans cette loi nouvelle, cette loi de l'esprit, eh bien, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'une nouveauté, du passage de l'ancien au nouveau, à travers les noces de Cana, hein? On va revenir tout à l'heure, mais vous voyez le vocabulaire de Jarre qui sert à la purification. À la purification, ça nous fait penser à l'ancien, là. Voilà, bon, par exemple. Voilà. Comme par hasard, la Pentecôte, on va nous dire, mais tiens, ils ont reçu l'Esprit Saint, je ne sais pas quoi, mais ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin doux, et il est que 10h du matin. Voilà, bon. Voilà. Alors, Alors, pour continuer sur... oui, parce que voilà, je vais jusqu'au bout de Exode 19. Alors, vous avez quatre petits éléments qui vraiment font un lien avec Exode 19 dans le texte de Jean chapitre 2. Premier élément, on nous dit en Exode 19, 20, là, Dieu appelle Moïse. Bon, Dieu appelle Moïse. En fait, nous, c'est pareil, c'est Jésus fut appelé à des noces, comme Moïse est appelé sur la montagne. Hein, il y a ce thème de l'appel qu'on retrouve, alors bon, c'est traduit invité, mais le terme grec invité, en fait, veut dire aussi appelé. Voilà. De même que Dieu appelle Moïse, eh bien, Jésus est appelé à ses noces. Bon, première chose. Le deuxième chose, le peuple obéit à ce que dit Moïse, et il va voir la gloire de Dieu se manifester. Et à Cana, les serviteurs vont obéir à l'ordre qui leur est donné. Et ils vont voir la gloire du Christ. Donc, deuxième thème, c'est l'obéissance. Avec... je ne l'ai pas mis dans le texte, là, mais en Exode 19, 7, avant que Dieu... révèle sa loi, qu'est-ce que va dire le peuple? Le peuple va dire, ben, écoute, tout ce que Dieu nous dira, eh bien nous le ferons. Hein, tout ce que Dieu nous dit, nous le ferons. Pourquoi je dis ça? Parce que Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et le peuple, hein, Exode 19, 7, Moïse alla et convoqua les anciens du peuple, et leur exposa tout ce que le Seigneur lui avait ordonné, et le peuple entier, d'un commun accord, répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. » Voilà. Même vocabulaire. Faites tout ce qu'il vous dira, tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Ensuite, troisième petit lien. Dans le texte de l'Exode, après la théophanie, Moïse redescend vers le peuple. Et après Cana, Jésus descend à Capharnaüm. Dans les deux textes, à chaque fois une descente, soit vers le peuple, soit à Capharnaüm. Et puis, dernier point, au Sinaï, le peuple est devenu le peuple de Dieu. On a une des premières fois la grande formule de l'Alliance, « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». Exode 19, 5. Hein? Au départ, quand les gens n'ont pas une loi, ils ne sont pas vraiment un peuple. Ce qui fait qu'on devient un peuple, c'est qu'on a une loi, on a une règle. Sinon, on est un petit peu des gens qui sortent d'Égypte, là, un peu en désordre. C'est un peu la panique. Donc le peuple, il va se constituer autour de la loi. Hein? Et voilà, et du coup, ce peuple, il va faire alliance avec Dieu, il va accepter cette nouvelle loi, enfin cette première loi, de même qu'au début hein, de la Bible, eh bien, il y a ce couple qui doit accepter cette loi, tu mangeras de tous les arbres, mais de l'arbre du jardin, tu n'en mangerais pas, et on voit bien qu'il n'accepte pas la loi, donc il y a comme un divorce entre Dieu et l'homme. Et là, à nouveau, voilà, l'alliance eh bien, se refait avec cette formule « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Et c'est un peu, cette alliance entre Dieu et l'homme, c'est le mystère du mariage. Hein. Dans le mystère du mariage, ben, tu deviens mien et je deviens tien. Voilà, il y a cette alliance. Alliance qui symbolise en fait l'alliance entre Dieu et l'homme. Hein. Premier miracle de Jésus, au cours d'un mariage, je comprends que Jésus en fait est le véritable époux Et je comprends qu'il est celui qui va sauver l'humanité. Et lui-même a fait alliance avec l'humanité puisqu'il est vrai Dieu et vrai homme. S'il est vrai homme, ben, il a pris de Marie un corps et il a donné à l'humanité la divinité, sa divinité, pour que l'humanité devienne Dieu. Hein, Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Donc c'est ce texte de saint Augustin que vous avez, mais que je ne vais pas lire pour ne pas être trop long. Voilà, on vous parle de cette alliance en termes d'épousailles entre Dieu et l'humanité, c'est le texte numéro 3. Voilà, donc vous voyez... Au moment de même que, en sortant donc d'Égypte, en recevant la loi, le peuple est constitué, on a l'impression que là, c'est pareil, les disciples sont constitués au sortir de Cana. Hein, on emploie le mot « disciple » à ce moment-là. Il n'y a plus de récit de vocation après, c'est terminé. Et les disciples, tel fut le commencement des signes de Jésus, il l'accomplit à Cana. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Voilà, vous voyez, on ne nous le dit pas avant. Hein. On a l'impression que le commencement de la foi, l'enfantement, le départ, eh bien, c'est Cana. Avant, ils sont attirés, mais là, il y a la foi qui est donnée. Et on a compris que cette foi venait par Marie. Bon, parce que c'est elle qui a repéré les choses. On va le voir. Alors, la signification du vin qui manque. Alors, petit point sur le mariage à l'époque. Or, il n'y avait plus de vin. Alors, une autre traduction en grec, on peut dire aussi « Or, il n'y avait pas de vin. » Car le vin des noces était épuisé, ou autre traduction, car le vin des noces était manquant. Littéralement, c'est plutôt « il n'y avait pas de vin, car le vin des noces était manquant ». Alors, d'abord, petit cours sur le vin. Il faut savoir que le vin ne se gardait pas dans l'Antiquité. On a ça dans des jarres, voilà, des amphores, comme ça qu'on dit. Bon. Donc, avec un col. Le col, voilà, parce que plus c'est large, et bien plus ça s'évapore. Voilà, ça s'évente. Bon. Et on ne maîtrise pas très bien la fermentation. Rappelez-vous la formule de Jésus, on ne met pas du vin nouveau dans des outres vieilles. Hein, sinon, ça va s'abîmer. Ça va, voilà. Sinon, les outres vont exploser. Bon. Alors, le vin est quelque chose d'instable. Il suffit qu'il y ait des orages, des changements de température un peu paf paf. Et du coup, ça fait qu'une région eh bien, peut avoir des réserves de vin qui s'abîment et qui ne sont plus vraiment buvables et qui tournent au vinaigre. Là, vous voyez, apparemment, les jarres sont pleines, elles sont pleines de vin, ce qui fait que, c'est plutôt ça, ce qui fait qu'ils vont prendre des jarres qui vont servir à la purification. Et on prend d'autres jarres, mais on ne prend pas les mêmes. Hein. On ne va pas vider. Bon. Hein, pourquoi prendre des jarres qui servent à la purification? C'est peut-être une des raisons. On va en voir aussi une autre. Bon. En effet, si... il manquait simplement de vin, on aurait pu aller dans le village d'à côté, puis on aurait été chercher du vin, et puis voilà. Mais apparemment, c'est possible que la région, en fait, toute la région, manque de vin, parce que, eh bien, ça a un petit peu mal tourné. Alors, je tiens ça du père Bernard Pérousse, qui est historien, donc je pense que c'est juste, voilà ce qu'il dit. Alors, le symbole du vin dans l'Ancien Testament... En fait, il faut... Ouais, l'époux, j'ai compris qu'il était le signe de Dieu qui épouse. Alors, le vin, est-ce qu'il n'y aurait pas une symbolique? Le vin est le symbole du mariage, de l'alliance. Bon. Alors vous avez ça en Deutéronome, chapitre 32, verset 13. Bon, 13, 14. Bon, vous irez voir. Symbole de l'alliance, vous avez le Cantique des Cantiques. Tes amours sont plus délicieuses que le vin. Hein? Bon. Symbole aussi de l'enseignement. Proverbe, chapitre 9, verset 5. Venez manger de mon pain, buvez du vin que j'ai préparé. Symbole de l'enseignement. Pourquoi c'est important? Parce que je vous ai dit, en fait, à la Pentecôte, on célèbre la loi nouvelle. C'est-à-dire l'enseignement qui est intériorisé. C'est ça. Hein? Voilà. Et c'est vrai qu'à la Pentecôte, les disciples, ils arrivent à commenter l'Ancien Testament. Alors avant, ils n'y arrivent pas du tout. Vous prenez les Actes des Apôtres, vous regardez le discours de Pierre, c'est rempli de citations. Voilà. Mais ça y est, avant, Jésus, à trois reprises, il annonce sa passion, ils ne retiennent rien. Voilà. Tout d'un coup, c'est intégré. Bon, c'est aussi symbole de la fin des temps, du ciel. Donc c'est ce qu'on appelle la dimension eschatologique. Eschatologique, c'est-à-dire la fin des temps. Je lis Amos, chapitre 9. « Voici venir des jours où se suivront de près... » voilà, je ne sais plus, là. « Celui qui foule le raisin, bon, les montagnes dégoulineront de jus de raisin... » Je rétablirai mon peuple Israël. Hein. Voici que je vais faire un festin avec des viandes grasses, des vins capiteux. Ça vous dit quelque chose? Ça, c'est dans le livre d'Isaïe, au chapitre 25. Donc, en quelque sorte, le vin aussi est symbole des temps du Messie. Jérémie, chapitre 31. Ils viendront hurlant de joie, ils afflueront vers le Seigneur. Le blé, le vin nouveau et l'huile. Voilà. Alors, vous prenez le texte numéro 4, qui du coup me donne une lumière sur ce vin nouveau qui est donné. C'est un texte de Saint Cyril. Le Sauveur ne vint pas aux noces de par sa seule volonté. En grand nombre, les voix des saints l'y appelaient. Mais le vin manquait aux convives, car la loi n'a rien mené à sa perfection. Les écrits de Moïse ne suffisaient pas à donner la joie parfaite. La mesure de la tempérance, qui est propre à notre nature, n'allait pas jusqu'à nous apporter à elle seule le salut. Il serait donc vrai de dire aussi à notre propos, ils n'ont pas de vin. La munificence de notre Dieu ne voit pas avec indifférence que notre nature est écrasée. Donc, voyez, le Seigneur vient. Pourquoi? Le vin manquait aux convives, car la loi n'a rien mené à sa perfection. En quelque sorte, Jésus, il apporte toute la nouveauté. Il apporte ce vin nouveau, il apporte cette loi nouvelle. Qui va être symbolisé dans l'évangile de Luc, vous voyez, par ces vieux personnages. Élisabeth, qui est stérile, il n'y a plus de vie. Siméon, voilà, c'est l'ancien, mais c'est aussi celui qui attend la nouveauté. Et donc, il faut cette jeunesse, il faut ce renouveau. Hein, cette loi, elle nous est donnée, mais on n'y arrive pas, on n'arrive pas à la vivre. Et donc, Dieu, eh bien, donne ce vin nouveau, qui est cette loi nouvelle, qui nous permet de revivre la loi ancienne dans sa profondeur et dans son intention première. Alors, ensuite, l'intervention de la mère de Jésus ou de la femme, mon petit 3. On nous dit la mère de Jésus, hein, la mère de Jésus, d'ailleurs, oui, la mère de Jésus y était, à Cana de Galilée. au début du texte. Donc la mère de Jésus, en fait, je ne sais pas son prénom. Si nous n'avions que l'évangile de Jean, nous ne connaîtrions pas le nom de Marie. C'est-à-dire que Jean va toujours situer le personnage en relation avec les autres ou dans leur fonction. Ce qui intéresse Jean, c'est la mère de Jésus. D'accord ? C'est celle qui a donné la vie à Jésus. Okay. C'est celle qui a donné la vie à la tête du corps. Hein? Et donc, c'est peut-être celle aussi qui va donner la vie à l'Église, aux disciples, les enfanter à la foi. Tiens, oui, il y a peut-être une piste. Et puis, cette mère de Jésus, sa mère, dit au servant, verset 5, donc on continue. Elle va s'appeler femme. Alors, d'abord, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Alors, pourquoi elle s'adresse à Jésus? Bon, certainement que Jésus, eh bien, était celui qui avait... C'est dans une famille, hein, c'est toujours un peu l'homme, le père. D'ailleurs, si Joseph était là, si Joseph était encore vivant, certainement que Marie se serait adressée à Joseph. Parce que c'est le chef de famille qui a l'argent, donc qui aurait pu faire quelque chose. Hein, voilà. Est-ce que tu peux aider là? Il y a vraiment un problème. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, donc là, c'est peut-être ça. C'est, vous voyez, un petit peu Jésus qui aurait pris la fonction du père. Bon. Qui détient les moyens financiers. Bon. Alors, Marie s'aperçoit qu'il n'y a plus de vin, que ça manque. Bah, dans un repas, comment ça se passe? Pourquoi? Peut-être qu'elle était un petit peu au service, possible. Elle a pu aller dans les coulisses. Peut-être qu'elle voit les serviteurs qui servent moins de vin. Hein? Vous avez toujours un mariage, vous dites, bon, bah, il faut, je sais pas, un Bordeaux, il faut deux bouteilles pour trois. Ouais. Puis vous dites, tiens, vous savez, quand les gens, ça commence, là, on n'a plus trop de vin, là, on sert un peu moins, on fait des verres à moitié, là. Bon. Et alors, ben, Marie, elle intervient parce que ça craint à fond. Parce qu'un mariage où il n'y a plus de vin, c'est la catastrophe. Enfin, les noces, elles durent 2-3 jours. Si au bout de 24 heures, il n'y a plus de vin, ça veut dire quoi là, c'est l'époux qui est radin, qui n'a pas amené assez de vin. Ou alors, c'est qu'il y a un problème, en fait. Et c'est qu'il y a un problème dans ce couple, en fait. C'est... Mais est-ce qu'il ne serait pas maudit? Est-ce que... Pour que... Vous savez, c'est le réflexe, hein, mais pour qu'il nous arrive tant de malheurs, c'est est-ce qu'on n'a pas fait du mal? Est-ce que Dieu voulait vraiment cette noce? Donc la noce entre Esther et Jacob, on va en parler. Hein, on va parler pendant des années. On va en parler en mal. En disant, vous savez, pour Esther et Jacob, là, on n'a pas compris. Au bout d'une journée, il n'y avait plus de fête. L'ambiance, on a terminé à l'eau. Enfin bon, moi, je pense que ce mariage, il ne va pas tenir. Hein, à mon avis, bon. Voilà, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Bon. Alors, est-ce qu'ils ne seraient pas un petit peu maudits de Dieu, ces gens-là? Et donc, Marie, voyant ça, eh bien, demande voilà, que quelque chose soit fait. Elle va se présenter comme l'aide de l'homme. Hein? En fait, dans la Genèse, eh bien, Adam, c'est l'humain. Hein, au sens large. C'est pas l'homme d'ailleurs. Bon. C'est l'humain. Bon. Et Dieu dit à l'humain, je vais faire une aide semblable. Voilà. Une aide au niveau de l'amour. C'est ça qui manque à l'humain. Parce que l'humain tout seul, bah, il est là, il a beau discuter avec les animaux, et au début, enfin, à un moment donné, il dit j'en ai un petit peu. Il ne trouvait pas une aide qui lui corresponde. Bon. Alors du coup, Dieu dit, bah, je vais endormir Adam. L'humain, et de son côté, eh bien, va naître la femme. Donc je comprends que la complémentarité de la femme est une complémentarité au niveau du cœur, au niveau de l'amour. C'est-à-dire que l'humain, tout seul, eh bien, en fait, il n'arrive pas à aimer. Et du coup, en regardant le texte, je comprends que, puisque du côté d'Adam, eh bien, sort Isha, eh bien, à ce moment-là, Ish est l'humain, mais est aussi l'homme masculin. Hein, vous comprenez? C'est l'humain, l'humanité qui a besoin d'une aide, et aussi c'est l'homme, l'homme masculin, qui a besoin d'une aide. Mais cette aide, elle est au niveau de l'amour. Donc voilà en quoi est le symbole de la femme, c'est celle qui va aider l'homme et l'homme masculin à aimer. On peut le dire, hein, on voit bien dans une entreprise, j'ai mis un petit texte d'ailleurs de Edith Stein. Bon, enfin, on ne peut pas lire tous les textes, hein, parce que je mets beaucoup de textes. Moi. Bon, on va lire quand même, allez. Voilà, elle parle de la femme au travail. Et elle dit, elle embrasse, en faisant un peu le lien avec Cana, en tout cas ça m'a fait penser à Cana, elle embrasse toute la situation d'un regard qui observe, alors texte numéro 6, hein. Elle embrasse toute la situation d'un regard qui observe en silence et qui découvre où quelque chose manque, et avant que nul autre ne l'ait remarqué. Avant que l'on n'ait éprouvé le moindre embarras, elle y a déjà porté remède. Elle trouve les moyens d'y remédier. Elle donne les instructions nécessaires, tout cela silencieusement, d'une manière imperceptible. Puisse-t-elle servir de modèle à la femme dans la vie professionnelle? Vous voyez, Edith Stein commente les noces de Cana en donnant des instructions silencieusement. Puisse-t-elle servir de modèle à la femme dans la vie professionnelle? La femme exerce, où que soit sa place, fait silencieusement son travail en acceptant de se plier aux circonstances sans chercher à capter l'attention ni exiger des éloges. Et puisse-t-elle en même temps embrasser la situation d'un regard vigilant, s'apercevoir où une chose fait défaut, où quelqu'un a besoin d'aide? Et intervenir de la manière la plus imperceptible possible dans la mesure de son pouvoir. Alors, tel un bon génie, elle exercera partout une action bienfaisante. Donc, la femme mystère de la vie, il me semble qu'une société s'humanise avec la femme. Voilà. Et donc, ce qui manque à ces noces, en fait, ce qui manque, c'est la vie. Ce qui manque, c'est l'amour. Ce qui manque à ces noces, c'est justement une femme. Il n'y a pas de femme. On nous fait un récit sur un mariage, il n'y a pas de femme. Ce qui manque à l'humanité, c'est Marie. Marie qui va redonner à l'humanité, eh bien, la vie. En redonnant le vin, en redonnant donc l'amour au cœur de cette humanité. Et en voyant comment agit Marie, on comprend quelque chose d'une médiation de la femme, d'une manière de faire de la femme qui repère les choses sans imposer, en expliquant la situation et en redonnant à l'homme aussi une place. Alors, il y aurait tout un petit chapitre à faire sur la place de l'homme et de la femme. Moi, je me souviens de. C'était intéressant dans un. J'avais un groupe de jeunes professionnels. Bon. Et puis, j'avais une petite équipe autour de moi. On était vraiment tous ensemble. C'était pas autour de moi, c'était l'équipe, voilà. Donc, il y avait des jeunes. 18-30 ans. Et puis, j'aime bien, enfin, cette équipe, elle était chouette parce qu'elle repère des tas de choses. Tiens, Paul, il y a ça, t'as pas vu, ça, tac, tac. Et donc, y a une des personnes, c'était justement une femme, qui avait repéré quelque chose qui allait pas. Donc elle m'avait dit, bah, Paul, tu vois, il y a ça qui va pas. Bon. À propos d'une personne, je crois. Bon. Et puis, elle me dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'ai dit, écoutez, faites ce que vous voulez. Voilà, moi, vous savez, je suis cool, hein, j'impose pas les choses. Hein. Faites ce que vous voulez. Et en fait, elle attendait. Non, non, mais Paul, en gros, je ne sais plus exactement les mots exacts, mais Paul, c'est à toi de décider. Tu vois, nous, on t'a amené la situation, mais c'est toi, là, qui es le berger, là. Tu as une fonction de berger. Donc, c'est toi qui dois décider la chose. Donc, ne te repose pas sur nous. En nous faisant ton petit couplet, bah, on est tous une famille et tout le monde décide partout. Non, non, ça ne nous intéresse pas, nous. Nous, on a besoin de quelqu'un qui décide. Donc, qu'est-ce que tu veux décider? Et en fait, dans ces noces de Cana, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, voyez, là, Jésus ne repère pas, parce que les hommes, en général, ils ne repèrent pas grand-chose. Enfin, vous avez remarqué, bon. Bon. Mais, voyez, il y a l'intuition féminine. Mais un homme, il faut lui dire les choses. Parce que les femmes, souvent, elles attendent que l'homme imagine, découvre, devine. Parce qu'une femme, elle aime bien, en fait, qu'on devine. Est-ce que je suis aimable? C'est la question de l'homme, de la femme. Hein, est-ce que je suis aimable? La question de l'homme, c'est plutôt est-ce que je suis capable? Bon. Donc la question de la femme, c'est est-ce que je suis aimable? Et pour que je sois aimable, il faut qu'il devine, hein, qu'il repère le fond de mon cœur, qu'il vienne me délivrer. Dans ma tour où je me suis caché, il vient me chercher, il prend des nouvelles, tout ça. Bon. L'homme, c'est pas pareil. L'homme, si on lui dit pas les choses, il voit pas. Donc il faut. Voilà, et c'est ce que dit, vous voyez, Edith Stein. Elle donne des instructions nécessaires, tout cela silencieusement. Il faut arriver à dire, mais de manière un peu silencieuse. Enfin, voilà. Elle voit la situation d'un regard. Bon. Elle remarque les choses avant que les autres n'aient pas. Bon. Mais c'est vrai que la femme va souvent donner à l'homme sa place. L'homme, il n'y apprend pas tellement. Je vois au niveau des servants d'hôtel, alors les gens disent « Pourquoi il n'y a pas de filles dans le cœur ?» Pourquoi il n'y a pas de filles? Parce que les filles font tout beaucoup mieux, je vais vous dire. Elles repèrent, elles sont vachement... Elles arrivent à se promener et tout. Elles sont très à l'aise avec leur aube. Les mecs, ils sont beaucoup moins à l'aise avec leur grande robe, là, tout ça. Elle repère, machin, je te fais la dinette et tout, je te lave les trucs, etc. Elles n'ont aucun problème. Donc, on voit bien quand des filles à 8 ans et des garçons à 10 ans, la fille à 8 ans, elle est beaucoup plus douée que le garçon à 10 ans, vous voyez. Et donc, les garçons, bah, s'il y a des filles vachement douées autour, et bien les garçons, ils vont partir. Voilà. Bon. Mais vous voyez, la femme va donner en fait, la place à l'homme. C'est ça qu'il faut. Bon, bon enfin, il y aurait tout un truc. Non. Après, je vois bien. Alors, l'homme, ça ne veut pas dire qu'il est moins spirituel. Bon, l'homme est aussi spirituel que la femme. Mais il va l'exprimer d'une manière différente. Vous voyez, plutôt par l'action. Il est moins à l'aise, tout ce qui est groupe de partage, tout ça, est moins à l'aise, voilà. Bon, bon. Il fait plus des choses, mais il faut un petit peu lui dire ben, ce qu'il faut faire. Bon. Voilà. Bon, c'est un peu caricatural, hein, mais en même temps, c'est un peu vrai aussi quand même. Bon. Voilà, alors il y a un beau texte de Nicole Échivard sur la place de la femme et que je vous ai mis, que je ne vais pas lire, c'est le texte numéro 5, et que vous lirez chez vous, hein, sur ce rôle entre l'homme et la femme, un peu à l'image de Cana. Donc, Marie se présente, vous voyez, comme cette aide, au sens noble du terme, c'est-à-dire ce secours vital. Le mot hébreu, hein, quand Dieu dit « je vais lui faire une aide semblable », l'aide semblable, c'est je vais lui faire un secours qui va le sortir de la mort. C'est ça que ça veut dire. Hein. Un secours vital pour sortir de la mort. Oui, en effet, si l'humain n'aime pas, il devient meurtrier. il meurt. Bon. Donc Marie est cette aide. Ève, elle n'a pas vraiment été une aide. Elle dit à Adam, écoute, tiens, je te propose du fruit de l'arbre. Tu vois, non mais t'as pas autre chose. Tu vois, elle conduit à la mort, Ève, au lieu de conduire à la vie. C'est pas terrible. Bon, bah, peut-être que Adam, voilà, je sais pas trop, il séduisait plus Madame. C'est possible. Hein. Donc elle a préféré être séduite par le serpent, parce que le serpent, il lui pose des questions. Alors Dieu vous a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Mais mon Adam, lui, dans le jardin. Et il est là, il bricole, mais il ne dit plus est-ce que je suis belle et tout ça. Bon, donc bon, le serpent, du coup, il discute avec Ève. Et du coup, bah, ça fait alliance entre le serpent et Madame, et c'est la catastrophe. Et là, avec Jésus, on a une nouvelle alliance entre vraiment, eh bien, un homme et une femme, un époux et une épouse, bah, qui fonctionnent bien ensemble. Donc Marie est à la fois la mère de Jésus. Et en même temps, elle est aussi l'épouse du Christ. Elle a quelque chose d'une épouse, hein, parce que vraiment, elle fonctionne bien ensemble. Et on va voir aussi qu'elle est aussi la fille du Christ, au sens la disciple. La fille de... Voilà, nous sommes... Ou la fille de Dieu, si vous préférez. Enfin, voilà, elle est... Pourquoi ? Parce que Jésus va... Tout d'un coup, il y a ce basculement dans l'Évangile, et qu'on voit à 12 ans, quand Jésus a 12 ans, en fait, on s'aperçoit que c'est Jésus qui va éduquer sa mère. Hein? Ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon père ? Basculement. Ah oui, c'est moi qui décide de rester au temple. Bon. Et donc, à Cana, c'est la même chose. Hein? Jésus lui dit, qui est-il entre toi et moi ? Que me veux-tu, femme ? Hein? Que me veux-tu, femme ? Traduit par, qui est-il à moi et à toi. Donc, je vous fais un petit couplet, numéro 5, là, sur l'incompréhension entre Jésus et Marie et la coopération de la femme. La coopération de la femme, j'en ai déjà un petit peu parlé. Marie symbolise l'humanité qui coopère. Voyez. Marie, c'est le symbole de l'Église. C'est le symbole de chacun d'entre nous. Et donc, Jésus, en fait, a besoin de l'humanité, a besoin de chacun d'entre nous. L'humanité aussi symbolisée par les serviteurs qui vont obéir, un petit peu comme dans la Genèse. Bon. Bon, bref, derrière, je comprends que Dieu a besoin de moi, que je participe à mon salut. Voilà. Et puis, incompréhension entre Jésus et Marie. Alors, cette formule, « Qui est-il à moi et à toi ?», on la retrouve... Par exemple, au chapitre 4 de Saint-Luc, Luc 4, 34, avec le démon. « Ah, que nous veux-tu, Jésus le Nazarénien ?»« Que nous veux-tu ?» littéralement, c'est « Ah, qu'est-ce que, toi et moi, qu'est-ce qu'on a à faire ensemble ?»« Quoi à moi et à toi, femme, littéralement ?»« Quoi à moi et à toi ?» Alors, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire, mais qu'est-ce que pour toi et pour moi ? Tu es en train de me parler de vin, d'un vin qui manque. Mais qu'est-ce que le vin pour toi et pour moi ? Est-ce qu'on parle de la même chose ? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde ? Hein ? Ce vin, c'est quoi pour toi et pour moi ? Hein ? Donc, ce n'est pas tellement un refus. C'est plutôt le désir de Jésus de rétablir le sens des mots. Tout l'évangile de Jean, il progresse sur des incompréhensions successives. Nicodème. Jésus qui dit à Nicodème, si, il faut renaître d'en haut. Mais est-ce que je dois entrer dans le sein de ma mère à nouveau? Non, non, attends. Qu'est-ce que pour toi et pour moi la naissance? On n'est pas sur la même longueur d'onde. Toi, tu parles d'une naissance charnelle, moi je parle d'une naissance spirituelle. Il faut renaître d'en haut. C'est l'Esprit Saint. La Samaritaine, pareil. Donne-moi à boire. Oui, mais qu'est-ce que pour moi? Quoi à moi et à toi? La Samaritaine, elle parle d'eau plate. Non, moi je te donne une eau vive. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous prenez Jean chapitre 6, le récit sur le pain de vie. Moi, je vais vous donner une nourriture. Mais quoi, la nourriture comme la multiplication des pains. Non, non, autre chose. Un pain qui donne vraiment la vie, pas le pain que vous venez de recevoir. Ah d'accord, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Lazare, Jean chapitre 11. Ah, il va ressusciter. Oui, d'accord, mais tu parles de la résurrection. Non, moi je parle de, voilà, au terme, la résurrection de la chair, à la fin des temps, etc. On ne parle pas de la même chose quand on parle de résurrection. On ne se comprend pas. Et donc Jésus vient, vient rétablir le sens des mots. Et vient dire à Marie, quelle est cette... En fait, en l'appelant femme, hein? Femme, mon heure n'est pas encore venue. Pourquoi il l'appelle femme? C'est-à-dire qu'il prend le mot, il l'appelle pas Ève. Il l'appelle pas Marie. Il l'appelle pas... il l'appelle femme. C'est-à-dire qu'il reprend le mot de la Genèse. Isha. C'est-à-dire qu'il prend le mot qui est donné à la femme avant le péché. Voilà. Avant le péché, eh bien, la femme est cette aide donnée à l'humain. Et donc, Jésus est en train de dire à sa mère qu'elle incarne cette figure de la femme d'avant le péché, qui va vraiment secourir l'humanité. Qui va sortir l'humain de la mort. Et là, c'est Marie qui, par son intervention, sort le peuple de la non-foi, de l'absence de vin, de la tristesse, voilà. De l'absence de vin au sens de l'absence d'amour, de l'absence de loi. Voilà. Elle est. En l'appelant femme, si vous voulez, c'est comme si Jésus faisait apparaître l'épouse. Femme. Elle est enfin cette aide que l'homme attendait, que l'humain attendait. Voilà, du coup, ce mot de femme est un des lieux dans l'Écriture où on peut parler de l'Immaculée Conception. Pourquoi immaculée? Ben, c'est la femme d'avant le péché. Hein? On reprend le même terme et du coup, je comprends que Marie est celle qui est immaculée puisqu'elle incarne la femme d'avant le péché. Jésus est le nouvel Adam et Marie est la femme nouvelle. Alors, mon heure n'est pas encore venue. On pourrait dire, tiens, c'est un refus. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas de point d'interrogation en grec. Il n'y a pas de ponctuation. La traduction la plus probable, c'est plutôt mon heure n'est-elle pas déjà venue? Au sens, femme, tu me demandes quelque chose, mais mon heure, en fait, elle est venue. Vous voyez, c'est plutôt mon heure est venue. Donc, vous voyez, en fait, on fait dire l'inverse, là, dans nos traductions liturgiques. Mais mon heure n'est pas venue. On a l'impression que c'est. Et puis elle n'en comprend pas, parce que Jésus dirait mon heure n'est pas venue, puis ensuite il fait le truc. Alors, elle est venue, elle n'est pas venue. Alors, quand Jésus parle de son heure, hein, dans l'évangile de Jean, c'est la dernière heure, c'est l'heure du sacrifice, c'est l'heure du don de sa vie. Jean chapitre 13. Avant la fête de la Pâque, sachant qu'était venue son heure. Avant la fête de la Pâque, sachant qu'était venue son heure. Jean 17, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Qu'est-ce que Jésus dit à la Samaritaine, chapitre 4, verset 23? Elle vient l'heure, et c'est maintenant, où les adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Donc, mon heure n'est pas encore venue, vous pouvez garder ça, mais mettez un point d'interrogation à la fin. Mon heure n'est pas encore venue ? Hein, c'est pas tellement l'heure pour aller acheter du vin pour dépanner, mais c'est plutôt l'heure pour manifester cette nouvelle alliance. Voilà. Et du coup, tel fut le commencement des signes. Hein, le mot exact en grec, c'est commencement, c'est pas premier. Pourquoi commencement ? Parce que quand il y a un commencement, il y a une, enfin, comment dire, il y a une durée. Si je dis premier signe, ça veut dire qu'il y a un signe, mais après il y aura un deuxième, il y a un troisième. Mais si je dis que c'est le commencement, je sais pas moi, en telle année, Monseigneur, Monseigneur Centaine a commencé à diriger le diocèse. Ben, il a commencé, il a continué. C'est pas. Tandis que si je dis en telle année, Monseigneur Centaine a pris, ça a été la première fonction de je sais pas quoi dans un diocèse, bah, première, mais bon, il peut y avoir d'autres fonctions. Voilà. Là, il y a l'idée de durée. C'est-à-dire qu'on commence avec Cana dans cette heure nouvelle. Et Jésus anticipe. Pourquoi ? Parce que quand on aime, on anticipe toujours. Vous prenez le sacrifice de la croix. Jésus fait le sacrifice de la croix, en fait, il anticipe ce sacrifice en donnant son corps, en donnant son sang, avant le mystère de la croix. Quand il dit « Ceci est mon corps livré pour vous », il n'est pas livré. Il va être livré quelques heures après, mais il anticipe. Jésus aurait pu très bien donner son corps après, je sais pas moi, au moment des apparitions, après la résurrection. Il aurait pu dire « Ceci est mon corps livré pour vous ». Mais non, il le fait avant, parce que l'amour anticipe. Je veux déjà donner ce que je vais donner après. Voilà. Quand on aime quelqu'un, ben on arrive toujours un peu en avance. Voilà. C'est vrai. Les amoureux, ils ont rendez-vous à 11h, mais à 10h30, ils sont déjà là. « Ah, pourquoi t'es là déjà ?» parce que, je voulais pas être en retard, mais moi aussi, voilà. Alors, anticipation, et Marie est montrée comme celle qui éduque dans l'obéissance, éduque à l'obéissance, plus exactement. Sa mère dit au servant, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. On a l'impression que Marie a en quelque sorte ce don de science. Oui, elle comprend qu'il y a quelque chose qui peut être fait. C'est ça le don de science. Intuitivement, c'est ça qu'il faut faire. Vous voyez, telle personne dit, tiens, il faut qu'on fasse telle mission, qu'on baptise telle chose, qu'on fasse un séminaire de cette grandeur-là, qu'on ouvre une propédeutique, don de science. Je sens que c'est ça qu'il faut faire. Donc, je vois ce don de science chez Marie, et puis, tout ce qu'il vous dira, faites-le, comme je l'ai déjà dit, c'est la formule de l'Alliance. Tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Comme si Marie introduisait à cette nouvelle Alliance. Et les serviteurs ont une véritable attitude d'alliance, c'est-à-dire d'obéissance. En fait, la sainteté, c'est entrer en alliance avec Dieu, c'est-à-dire entrer en obéissance avec Dieu. Qu'est-ce qu'on va dire à propos de Marie ? Hein ? On va dire Jésus, parce qu'il y a des gens qui cherchent Jésus de loin, et Jésus dira « Qui sont ma mère ? Qui sont mes frères ?» Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Donc ma mère, En fait, c'est celle qui fait la volonté de Dieu. Et quand on a cette formule, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Ben, je vois Marie qui introduit les serviteurs à faire la volonté de Dieu. Vous voyez, Marie qui est éducatrice pour qu'on entre dans cette obéissance à Dieu. En fait, si on prend Marie chez soi, c'est ça que ça veut dire, si on rentre dans cette vie mariale que propose Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, eh bien, nous allons entrer dans une certaine obéissance à Dieu. On va plus facilement épouser la volonté de Dieu. Dieu nous demande des choses à chacun d'entre nous qui sont différentes. Et en demandant, en vivant cette vie mariale, eh bien, Marie va me conduire vers le Christ et va m'aider à dire oui. Elle-même, Marie, au commencement de sa vie, eh bien, a dit tout ce que Dieu a dit, je le ferai. Hein. Le fiat de Marie. Qu'il me soit fait selon ta parole. Voilà, donc ce thème de l'obéissance, hein, où je dis oui à cette alliance, à cette nouvelle alliance, eh bien, Marie a cette place. Alors, je pourrais faire tout un développement sur le thème de l'obéissance, je n'ai pas le temps, donc on le fera dans un autre passage, quand j'aborderai le thème du discernement avec qui sont ma mère, qui sont mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Donc on travaillera sur la volonté de Dieu. Et alors je retrouve ensuite verset 6, hein, passage de la loi ancienne à la loi nouvelle. Or il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Et Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, ils les remplirent jusqu'au bord. Alors, en fait, c'est très curieux, pourquoi prendre des jarres? Alors d'abord, il y en a 6. C'est intéressant. Pourquoi 6? Parce que le 6 est le chiffre de l'imperfection. Vous voyez, l'imperfection, c'est en quelque sorte, là, c'est presque parfait, mais c'est pas tout à fait parfait. D'où le chiffre du démon dans l'Apocalypse, 6, 6, 6. Hein? Donc pas 666, parce que 666 ça veut dire 666, mais 666 ça veut dire 3 fois 6. Donc le chiffre de 3, c'est 666, c'est la multiplication de, enfin c'est 3 fois 6 quoi. De même qu'on va dire à Dieu qu'il est saint, 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 qu'il est 3 fois saint. Donc le démon, c'est la multiplicité 3 fois l'imperfection. C'est-à-dire que c'est presque Dieu, mais ce n'est pas tout à fait Dieu, le démon. C'est pour ça qu'on l'appelle Lucifer. Parce que Lucifer, ça veut dire l'ange de lumière. C'est-à-dire que c'est celui qui est tout proche de Dieu, au point qu'on peut le confondre avec Dieu. Et donc, vous avez, dans l'Apocalypse, vous avez le démon qui parfois, il est comme Dieu. Hein, il prend telle bête, vous avez un agneau qui n'est pas vraiment Dieu, etc. Alors, c'est vraiment intéressant, le chiffre 6, la pierre, 6 jarres de pierre. Tu peux mettre des jarres, tu n'es pas obligé de mettre de pierre. Hein. Je ne suis pas sûr que les jarres, elles étaient de plastique. Ou bon, elles sont toutes de pierre, à mon avis. Hein. Bon. Le mot purification. Hein. Donc, il est fort possible que nous soyons dans un mariage très pratiquant, de grands croyants juifs, et que, en fait, Jésus dise aux serviteurs, écoutez, il faut faire un rite de purification. Il y a eu certainement un péché, il y a un problème, si le vin a tourné comme ça, peut-être que ce mariage est maudit, il faut demander pénitence. Et donc, on va faire des ablutions, hein, 6 jarres de pierre destinées aux purifications des juifs. On va faire un rite de purification pour demander que Dieu nous pardonne. Alors, Jésus ne dit pas tout ça. Jésus dit simplement, Ben, prenez les jarres là de pierre, voilà. Prenez ces jarres-là. Mais les serviteurs, ils comprennent rite de purification. On va prendre des jarres qui vont servir à la purification. Et Jésus ne va pas faire un rite de purification, il va faire un miracle. Mais pour qu'ils acceptent de remplir des jarres, voilà, au milieu du repas qui servent à la purification, c'est qu'ils étaient peut-être ouverts à un rite de purification. Vous comprenez? Voilà. Et la purification s'arrête puisque, eh bien, à la place de l'eau, il y a du vin. Le terme de pierre, pourquoi je vous disais pierre? Parce que c'est Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Le terme et le thème de la pierre, on l'a dans l'Ancien Testament. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez, on peut prendre le petit texte numéro 7. Jésus n'a pas voulu faire le vin à partir de rien, mais à partir de l'eau, pour montrer qu'il ne voulait pas établir une doctrine entièrement nouvelle, ni réprouver l'ancienne, mais l'accomplir. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Ce que l'ancienne loi figurait et promettait, le Christ le manifesta et le révéla. Voilà. Jésus... C'est vrai, il a besoin des serviteurs, il a besoin de l'eau, il veut avoir besoin pour que eh bien, la vie soit redonnée, que le vin coule à nouveau dans cette loi symbolisée par ces pierres et par ce vin qui ne donne plus la vie. Hein. Quand on parle de la loi en Ézéchiel, hein, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Et le texte de Jérémie, au chapitre 31, verset 31, dit « Je mettrai au fond de votre cœur eh bien, mes lois, afin que vous puissiez les vivre. » Donc, il faut vraiment lier Ézéchiel 36 à Jérémie 31, 31. Voilà. Et le peuple, les serviteurs, entrent dans l'obéissance, puisez maintenant et portez-en au maître du repas. Eh bien, ils lui emportèrent. Il y a une obéissance, il n'y a pas de réticence. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où il venait. Hein, de même qu'on ne sait pas d'où vient le Christ. Tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Le maître du repas appelle le marié. En fait, du coup, je comprends que le marié, c'est Jésus. Hein? Jésus, l'intendant, en quelque sorte, a une sorte de grâce prophétique pour désigner Jésus comme l'époux. Et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Donc c'est toujours pareil, vous voyez, Jésus ne va pas simplement réparer les choses, il donne plus. La loi nouvelle n'est pas, je sais pas quoi, la loi ancienne qui est redonnée, mais il y a un plus. La loi nouvelle, c'est l'Esprit Saint, c'est plus que les commandements nouveaux et plus précis. Tel fut le commencement, voilà, je l'ai déjà dit, des signes de Jésus. Il l'accomplit à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Vous voyez, les disciples croient en Jésus ben, par Marie. Marie enfante à l'obéissance, Marie enfante à la foi. Voilà, Marie est celle qui est médiatrice dans ce don de la loi, dans ce don de la vie, dans ce don de l'amour. Alors, C'est intéressant, vous voyez, je termine par ce thème du mariage. En fait, je m'aperçois que le premier miracle de Jésus est un miracle autour du mariage. Pourquoi? Bien, parce que le mariage, et pour ceux qui ont reçu un sacrement de mariage parmi nous, il représente l'alliance du Christ pour l'Église. C'est pour ça que le mariage est indissoluble. Pourquoi il est indissoluble? Parce que l'alliance du Christ pour l'Église est indissoluble. Donc, la première chose que vient faire Jésus en entrant dans ce monde, c'est de sauver un mariage. Ça veut dire pas mal de choses. Hein. Ça veut dire pourquoi il sauve un mariage? Parce que le mariage, c'est une réalité fragile. D'abord, c'est ça que je comprends. Je comprends deux choses. C'est d'une part une réalité fragile. C'est difficile de s'aimer. Ah, c'est pas pour rien qu'il y a un mariage sur deux qui ne tient pas. À Paris en tout cas. Et puis un sur trois en France. Ben parce que, en fait, c'est difficile de tenir sans Jésus. Déjà, tout simplement. Et c'est ça que vient faire Jésus. Jésus dit, moi je suis celui qui vais redonner la vie à ce couple. Un couple sans moi, qui suis le véritable époux, eh bien, il va avoir du mal à tenir. Regardez, au bout d'une journée, ils n'ont plus de vin. Et pourquoi je dois redonner cette vie à ce couple? Parce que ce couple, il est le signe de l'amour, de mon amour pour les hommes. Il faut qu'en voyant un couple, en voyant le couple, les gens comprennent que Dieu les aime à l'infini. Le couple est en quelque sorte la fenêtre vers Dieu. Quand je vois un couple, je vois le Christ qui aime l'Église. Éphésiens chapitre 5. Marie, aimez vos femmes, aimez vos maris, là, vous connaissez le texte. Ce mystère de l'homme et de la femme qui s'aiment est grand. Et saint Paul dit, virgule, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Il s'applique au Christ et à l'Église. Donc quand je vois un couple chrétien, normalement, je vois le Christ et l'Église. Voilà. Quand je vois Jésus et Marie, je vois Ish et Isha, le Christ et l'Église. Marie, vous savez que le texte dans le Concile Vatican II sur Marie, c'est le dernier texte du grand chapitre sur l'Église, Lumen Gentium. Donc le grand texte sur l'Église termine sur Marie. Les pères du Concile ont dit « Ah, oh, il faudrait peut-être faire une constitution sur Marie à part. » Non, 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 non. Et finalement, ils ont réfléchi, ils ont dit « Non, non, en fait, Marie, c'est le modèle de l'Église, donc on va la mettre en dernier chapitre, comme le sommet, ce vers quoi l'Église doit tendre, la figure de Marie. Voilà, donc c'est quand même important, et toute la Bible est entourée par deux paroles sur le mariage. Première parole, hein, cet émerveillement d'Adam. Pour le coup, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Et puis Dieu qui dit, celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme. Il y a au commencement de la Bible, donc, un homme, une femme. Et dernier verset de la Bible, c'est l'Apocalypse. Où qu'est-ce qu'on nous dit? L'esprit et l'épouse disent, viens. Viens, Seigneur Jésus. L'esprit et l'épouse. Donc, le dernier mot de la Bible, c'est l'épouse, hein, qui crie vers son époux en disant, viens, Seigneur Jésus. Je t'en supplie. Viens que nous puissions, vivre Ce mystère de la résurrection jusqu'au bout. Le Christ est ressuscité, mais il faut que cette résurrection, elle passe dans tous les membres, que ta vie, eh bien, soit communiquée partout. Alors, on t'en supplie, viens, Seigneur Jésus. Voilà, voyez comment l'alliance du Christ et l'Église renvoie au couple et comment le couple renvoie l'alliance. Les deux sont en lien. Donc quand vous avez des gens qui veulent se marier à l'Église, en fait, c'est ça qu'il faut leur dire. Est-ce que vous voulez bien accepter cette mission que par votre amour, en fait, vous témoignez de que Dieu aime jusqu'à donner sa vie, jusqu'à mourir sur la croix. Il faut qu'on comprenne Christ crucifié en vous voyant. Bah, alors le problème, c'est qu'ils viennent se marier et puis ils me disent, vous savez, nous, on va pas à la messe, on va se marier à l'église. Bah oui, mais vous voulez une prière, vous voulez pas du sacrement de mariage. Le problème, c'est que l'église, elle sait pas faire des prières sans sacrement. Donc il y aura peut-être une réforme à faire, c'est possible. Je sais pas ce qu'il faut faire. Elle peut donner qu'un sacrement de mariage. Sauf quand l'un des deux n'est pas baptisé. Là, quand l'un des deux n'est pas baptisé, c'est une prière, il n'y a pas de sacrement. Mais quand les deux sont baptisés, ça devient un sacrement. Donc, c'est une grosse mission. Alors, c'est vrai que je pense qu'il faudrait que, en fait, que tous les clochers de France soient d'accord pour une préparation en mariage exigeante et qu'on ait tous le même langage.
Est-ce qu'on peut marier quelqu'un qui est baptisé avec quelqu'un qui ne l'est pas ?
Oui, on peut marier. Quelqu'un qui est baptisé peut être marié avec quelqu'un qui n'est pas baptisé. Il y a à ce moment-là une dérogation, enfin donc l'évêque signe un papier. Mais les théologiens sont... Alors, ils ne sont pas tous d'accord, mais la plupart disent qu'il n'y a pas sacrement de mariage parce qu'on ne peut pas donner un sacrement à quelqu'un qui n'a pas le baptême.
Disait une bénédiction dans le temps.
Oui, mais dans le temps, on disait bénédiction, ça voulait dire un mariage sans la messe. Mais bénédiction, c'est quand même sacrement. Hein. Donc voilà. Un sacrement, c'est un signe. Hein, c'est signe et moyen d'union à Dieu. Donc, vous ne pouvez pas être le signe de l'amour du Christ pour l'Église si l'autre, il n'est pas baptisé. Enfin, vous lui demandez. Enfin, c'est vraiment lui imposer quelque chose que il n'a pas la foi. Alors, si après il reçoit le baptême, du coup leur mariage devient sacrement.